portrait du cardinal Lavigerie. C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Bernard Hugeux, prêtre religieux missionnaire d'Afrique et auteur donc d'un petit livre, Prier 15 jours avec le cardinal Lavigerie, paru aux éditions Nouvelle Cité. Les éditions Nouvelle Cité donc qui ont une collection qui s'appelle Prier 15 jours, et c'est l'occasion d'être accompagné par une grande figure spirituelle, étant en l'occurrence c'est celui dont on veut parler ce matin, Bernard Hugeux. Donc vous êtes missionnaire en Afrique, merci de passer par nos studios. Vous êtes connu d'un certain nombre d'auditeurs puisque vous œuvrez en République démocratique du Congo comme d'autres de vos confrères. On en parlera à la faveur d'une autre émission qu'on va enregistrer prochainement avec vous. En tout cas, ce matin, c'est donc le cardinal Lavigerie, grande figure quoi, très connue chez les Pères Blancs, j'imagine, mais peut-être aujourd'hui passé aux oubliettes pour le grand public. Qu'est-ce que vous diriez?
Oui, sans doute pour le grand public, oui. Et encore, je dirais que pour le public du Sud-Ouest, le public de Radio Présence, c'est quand même un homme de Bayonne, et il avait à l'époque il y avait une grande statue de Lavigerie sur une place à Bayonne où il brandissait une croix presque comme une épée. C'était vraiment un grand symbole de la conquête de l'Afrique par l'Église, d'une certaine façon. Donc certainement que la population de Bayonne se souvient bien de lui, mais c'est vrai que bon, il est né en 1825, donc ce n'est pas hier.
Donc c'est un jeune basque, il faut le dire. Il est né à Huire.
C'est voilà. Ça.
D'une famille. Alors commençons par le début, toujours. Donc pour juste aider les auditeurs, on va dans cette première partie faire une biographie. Après on essaiera de voir, puisque c'est comme ça que marche votre livre aussi, puisqu'il accompagne pendant 15 jours le lecteur, où vous avez quelques grandes portes d'entrée sur sa vie spirituelle. On essaiera de voir quelques-uns de ses grands traits, et puis on verra son actualité à la fin de l'émission. Et entre autres, on parlera de la rencontre que les Pères Blancs ont eue avec le pape François, puisque, oui, dernière précision, c'est les 150 ans de la fondation des Pères Blancs cette année. C'est ce qui justifie toute cette actualité. Alors cet homme, donc, il naît dans une famille qui ne le prédisposait pas à devenir prêtre supérieur de communauté et cardinal.
C'est ça. Donc en fait, on se rend compte que le milieu dans lequel sa famille évoluait, c'était la franc-maçonnerie plutôt, un esprit voltairien. Il y avait des gens qui se réunissaient dans la maison de sa famille, la maison natale. Mais à côté de ça, en fait, on découvre, c'est lui qui en témoigne, qu'il a été évangélisé, si vous voulez, par les deux domestiques de la maison. Et c'est ainsi que ce jeune homme a fini il a terminé comme cardinal. Bon, c'est assez étonnant, évidemment, quand on voit son origine. Mais déjà, à 16 ans, il est parti à Paris parce qu'on avait remarqué qu'il avait un esprit très ouvert. Il avait demandé d'entrer au petit séminaire, et puis, bon, son père n'était pas très enthousiaste. Mais pour finir, il a eu une carrière ecclésiastique assez fulgurante, puisqu'il a d'abord été à...
Alors, juste avant de parler de sa carrière fulgurante, faut dire que c'était un jeune homme brillant. Vous pouvez en dire peut-être quelques éléments. Il devient docteur.
Oui, c'est ça que je voulais dire.
Docteur à 26 ans.
Il est passé par Saint-Sulpice, puis il est allé à l'école des Carmes, et puis à 24 ans, il est ordonné prêtre. Il devient docteur ès lettres à 25 ans, docteur en théologie à 26, professeur d'histoire ecclésiastique à 27, à la Sorbonne. D'ailleurs, il y a travaillé, il y a enseigné pendant 9 ans, et il a dit qu'il s'y est souvent ennuyé. Mais donc, c'était quelqu'un, effectivement, à l'esprit très brillant, alors qu'en fait, il ne s'intéressait pas tellement aux questions de conceptualisation, mais plutôt à l'histoire. Il était passionné par l'histoire. C'était aussi quelqu'un qui avait un tempérament du Sud-Ouest. Il avait un esprit rapide, facétieux. Il n'était pas tellement docile pour ses professeurs. Mais ce qui a impressionné, c'est son ouverture d'esprit à une époque où il y avait un certain nombre d'enjeux dans l'Église qui risquaient de replier l'Église sur elle-même.
Alors justement, parler du contexte ecclésial. Il grandit dans une atmosphère ecclésiale particulière deuxième partie du 19e siècle. Et à l'intérieur de ça, donc, il fait déjà preuve d'une grande liberté d'esprit.
Oui, parce qu'il y avait en fait une sorte de double polarisation. D'un côté, il y avait les jansénistes, donc, qui étaient pour une conception du salut réduite à un certain nombre d'élus, par rapport à ceux qui étaient pour une ouverture totale du monde au salut en Jésus-Christ. Donc déjà là-bas, il y avait une tension, et lui-même, comme enseignant, avait très nettement pris position contre le jansénisme. Et à la même époque, il y avait cette tension entre les catholiques, qui étaient plutôt pour le centralisme romain et une obéissance totale à la papauté, et d'un autre côté, un courant qu'on appelait gallican, qui était donc pour une certaine autonomie de l'Église de France par rapport à Rome.
Il y a une étape fondamentale, on va en avance peut-être un peu trop vite à votre goût, mais c'est lorsqu'il est nommé directeur des œuvres des écoles d'Orient. Je vais vous laisser expliquer ce que c'est, et là dans sa vie c'est un choc et une rencontre. Il rencontre l'occasion, entre autres à l'occasion donc de cette responsabilité, l'émir Abdelkader.
Oui, alors justement, c'était pour lui l'occasion de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, parce qu'il avait un esprit très ouvert, on l'a dit. Déjà, il était ouvert aux problématiques de son temps, la modernité, il dialoguait avec d'autres prêtres, etc., sur les grands enjeux de la modernité. Mais voilà qu'on vient le chercher à la Sorbonne, et c'était son accompagnateur spirituel, un jésuite, qui lui propose de devenir responsable des œuvres d'Orient. Et de quoi s'agit-il en fait, cette œuvre des écoles d'Orient? C'était le soutien qu'apportait l'Église de France à des écoles qui étaient des écoles catholiques qui étaient fondées au Liban, en Syrie. Et donc, il fallait apporter des fonds, soutenir ces écoles parce qu'elles étaient en pays musulman, très minoritaire. Et ce qui s'est passé, c'est que à peu près à cette époque-là, il y a eu des massacres de chrétiens par des musulmans. Et il avait fait une grande collecte pour demander de l'aide, pour soutenir ces personnes qui avaient été massacrées, dont on avait détruit les villages, etc. Et il a décidé d'aller sur place pour apporter l'argent et vérifier comment il allait être distribué. Et là, il a rencontré les églises d'Orient, d'abord, les églises orientales. Et ça a été pour lui une découverte de la richesse de ces églises orientales. Et puis, il a eu une rencontre effectivement personnelle avec l'émir Abdelkader, qui était un grand résistant contre la colonisation française, mais qui là-bas était à la fin de sa vie, au repos, et qui avait reçu, sauvé, recueilli dans les murs de son palais, si vous voulez, des milliers de chrétiens, qu'il avait sauvé en fait du massacre. Et là, la vigerie est allée pour le remercier. Et il a rencontré un homme qui était un homme qui, d'un côté, avait été un grand résistant, mais d'un autre côté, était un homme d'une très grande profondeur. Et il a été impressionné par la personnalité d'Abdelkader.
Alors, il dit de ce moment que c'est comme son chemin de Damas. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? On entend presque en écho un peu l'expérience de Charles de Foucault, qui, alors c'est différent, hein, mais qui est presque revenu à la foi chrétienne après avoir vu, avoir été témoin donc de la foi des musulmans. Est-ce que là aussi c'est la rencontre du croyant qui était l'émir Abdelkader, et donc la rencontre de l'islam aussi qui a été en partie son chemin de Damas? Et qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, c'est une partie de l'expérience Abdelkader, la rencontre de l'Orient, la rencontre aussi il parle du ciel de l'Orient, disant c'est le même ciel que l'Afrique. C'est-à-dire que pour lui, il est parti à Damas et il a fait aussi une chute de cheval. Bon, c'est un peu de l'ironie, mais pour lui, quand il en parle après, c'est pour montrer que le choix qu'il a fait par la suite d'abandonner le diocèse de Nancy, qui est un grand diocèse, pour partir vers Alger, qui était considéré comme une sorte de régression dans la carrière cléricale, avait été préparé par cet éblouissement qu'il avait vécu de la rencontre avec le Liban, la Syrie, les églises orientales et l'islam.
Mais qu'est-ce qu'il avait autant ébloui là-dedans, en fait? On sait, ou qu'est-ce qu'il avait autant marqué? On imagine que
c'est la découverte de la différence, je pense. C'est la découverte que des Orientaux, d'abord, vivaient leur foi à leur façon. Et il était très soucieux du respect, justement, de ce qui faisait la spécificité des églises d'Orient. C'était la découverte que, même si il venait là parce que des musulmans avaient massacré des chrétiens, il existait des musulmans qui étaient de vrais spirituels. Et pour lui, c'est vraiment une très grande découverte de l'altérité, je dirais.
Donc, comme vous l'avez dit, après être évêque de Nancy, il est nommé archevêque d'Alger. S'ensuivra donc une vie apostolique absolument extraordinaire, donc avec la fondation en 1868 donc des Pères et des Sœurs Blanches, et puis après ces multiples responsabilités qu'on a citées. Est-ce qu'il y a quand même des grandes étapes à poser dans cette grande vie apostolique, on va dire, en Afrique, et puis ce grand mouvement qu'il a initié, puisqu'aujourd'hui vous êtes encore, vous me disiez, on prépare l'émission, 1200 pères blancs, peut-être pas tous en Afrique, mais en tout cas dans le monde.
Mmh. Oui, je crois que c'est important de comprendre, c'est une des raisons pour lesquelles la Vigerie a accepté d'abandonner le siège de Nancy pour aller à Alger, c'est qu'il avait en fait deux rêves. Un premier rêve, c'était de restaurer le christianisme de l'Antiquité. Il y a donc une grande tradition de martyrs, des martyrs de Carthage. Et son idée, c'était que, bon, il y a eu une conversion du nord de l'Afrique par les musulmans. Et n'y a-t-il pas moyen de, entre autres, en passant surtout par les Berbères, donc les Kabyles, de restaurer un christianisme nord-africain? Et d'un autre côté, c'est ce qu'il explique à ses amis, aux autres évêques, quand on lui demande « Mais comment est-ce que vous avez pu accepter cela ?» Il dit « C'est une porte ouverte vers 200 millions de non-chrétiens, d'infidèles, comme on disait à l'époque. » Donc déjà, il avait cette vision, cette double vision, restaurer l'Église d'Afrique du Nord, et puis pénétrer en Afrique noire pour y apporter l'Évangile. Alors, c'est pour ça que, à peine arrivé, il a d'abord eu un clash avec le gouverneur Mac Mahon, qui lui avait demandé, vous êtes nommé évêque ici, mais pour vous occuper des Européens.
Gouverneur de l'Algérie, donc.
Oui, il était gouverneur de l'Algérie. Et alors, on lui dit, bon, votre travail, c'est de vous occuper des communautés chrétiennes d'origine européenne. Il a répondu, mais je suis aussi venu pour les Arabes. Alors évidemment, la colonie française était, en fait, à ce moment-là, c'était un département français, avait très peur qu'il y ait des tensions avec les musulmans si on commençait à faire la conversion. Mais l'idée de la Lavigerie n'était pas de convertir les gens avec plus ou moins d'énergie, mais tout de même, comme on l'a dit tout à l'heure, donc de commencer un dialogue avec ces populations, et donc de se sentir aussi père. D'ailleurs, dans la première lettre qu'il envoie avant même d'arriver à Alger, il dit « Je revendique de me considérer comme votre père, même si pour vous c'est difficile de l'accepter ». Donc il avait déjà cette idée qu'il était aussi évêque des musulmans et des arabes et des kabyles.
Alors comment il s'y est pris pour fonder les Pères Blancs et les Sœurs Blanches, et est-ce que ça a pris facilement tout de suite, ou est-ce qu'il a trouvé les premières vocations? C'était parmi les Français qui vivaient sur
place.
Oui, en
fait, il est allé voir des grands séminaires en France. Alors ce qu'il a fait, ce qui a poussé à ce qu'il fonde donc les Pères Blancs et les Sœurs Blanches, c'est qu'il s'est rendu compte que le clergé diocésain n'était pas du tout prêt à le suivre dans son désir de s'occuper des Arabes, pas du tout préparé à cela.
C'est-à-dire que le clergé dans le département français qui était l'Algérie n'était là que pour les colons chrétiens.
Voilà. Et donc, quand il est arrivé là, il ne connaissait pas l'arabe. D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'après un certain temps, il a même demandé que dans les séminaires, les diocésains qui travaillaient en Algérie, ils apprennent l'arabe. Mais les gens ne l'apprenaient pas parce qu'ils n'étaient pas là pour ça au départ. Et donc, lui, il s'est rendu compte que dans le fond, s'il voulait atteindre ce double objectif dont je viens de parler, eh bien, il fallait qu'en fait, il fonde des congrégations spécialisées. Alors, il a fondé d'abord donc les Pères Blancs, missionnaires d'Afrique. Puis, il a aussi fondé des Sœurs Blanches. Au départ, c'était l'idée où il les appelait les Sœurs Agricoles parce qu'il voulait qu'elles travaillent la terre avec les gens. Il y avait aussi des Frères Agricoles. Donc, au début, puis il s'est rendu compte petit à petit qu'il fallait viser plus haut. Et c'est devenu alors la congrégation des Sœurs Blanches, donc les Sœurs Missionnaires Notre-Dame d'Afrique.
À sa mort, donc en 1892, il y avait 278 missionnaires de 5 nationalités établis déjà dans 6 pays d'Afrique. J'ai l'Algérie, la Tunisie, l'Ouganda, la Tanzanie, le Congo et la Zambie. Je l'ai dit en introduction, il a été aussi donc délégué apostolique pour le Sahara et le Soudan. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que, et même après, donc il a été primat d'Afrique, ça veut dire qu'on étendait en fait son autorité apostolique à toute l'Afrique ou en tout cas à tout le Sahara.
Qu'est-ce que ça signifiait? Parce qu'il y avait aussi, bon, à l'époque, il y avait une certaine répartition des territoires en Afrique selon les congrégations, etc. Mais lui, donc, s'est rendu compte que s'il voulait avoir un impact et une certaine liberté dans son travail d'évangélisation et de pénétration de l'Afrique noire, il fallait qu'il en ait l'autorité. C'est pourquoi il a souhaité d'être ce délégué pour le Soudan, effectivement, et l'Afrique orientale, et puis ensuite d'avoir ce titre de primat d'Afrique. Il est aussi devenu archevêque d'Alger, de Carthage. Donc, il avait la conscience.
Qui était un archevêché symbolique aussi.
Oui, effectivement, symbolique. Mais qui évidemment un symbole très fort pour lui qui voulait restaurer justement l'ancien siège de Carthage, oui. Hein, avec toute la tradition d'Augustin, Saint-Augustin, etc. Mais donc, c'était un homme qui ne cherchait pas le pouvoir pour lui-même, mais pour avoir les moyens d'agir librement. Et il avait une très grande connivence avec Léon XIII, un peu moins avec Pie IX, mais il a quand même beaucoup travaillé avec les papes et il était très estimé.
Pour finir, on reviendra sur sa vie à la faveur de la deuxième partie en creusant quelques-uns de ses grands traits spirituels de sa vie. Parlez-nous de l'homme qu'il était. Est-ce qu'on sait des choses? J'ai lu dans votre livre des choses contradictoires. À la fois, on disait que c'était quelqu'un d'assez autoritaire. En même temps, semble-t-il, ceux qui étaient ses très proches collaborateurs disaient que c'était un homme plein de bonté. Voilà, à quoi ressemblait cet homme? En tout cas, il avait une belle barbe, comme vous. vous, mais un peu plus fourni. C'était un homme qui en imposait aussi.
Oui, alors il faut dire aussi qu'à l'époque, un cardinal, c'était quelqu'un. D'autant plus que ce que nous avons comme image de lui, c'était souvent des peintures qui ont été faites où on le présente en gloire sur un grand siège, enfin bon, très impressionnant, trônant d'une certaine façon. Alors, quand il fonctionnait dans la liturgie, par exemple, rien n'était assez beau pour lui, pour glorifier Dieu, en fait. Mais dans la vie quotidienne...
Et c'était... beaucoup de gens étaient frappés aussi par son recueillement, c'est ce que vous dites.
Alors, quand
livre,
il célébrait, on était très impressionnés par son recueillement. Et puis, c'était un homme de prière qui se levait à 4h, 5h du matin, qui prenait des longs temps de prière. C'était un homme pétri d'évangile, qui était vraiment passionné. D'un moment, il dit qu'il faut être passionné du Christ, quoi. Et il l'a vécu vraiment. Mais dans le concret... D'un côté, par exemple, il pouvait se mettre en colère parce que ses secrétaires, il avait 4 ou 5 secrétaires, ils travaillaient en même temps, tellement il intervenait dans les affaires en France, et puis avec le pape, et puis pour envoyer des missionnaires vers le sud. Alors, à certains moments, il se mettait en colère contre eux, mais il était capable, le soir, d'aller s'agenouiller devant ses secrétaires pour demander pardon, de s'être mis en colère. Quand il y avait un séminariste qui était gravement malade, il l'a fait amener à l'évêché et il lui apportait les repas tous les jours. Quand il rencontrait, en passant en calèche, des enfants pouilleux qui étaient abandonnés, il les prenait pour les amener à son orphelinat. Parce qu'au moment même où il est arrivé en Algérie, il y a eu une épidémie et il a récolté des centaines d'orphelins pour lesquels il est allé mendier de l'argent en France pour pouvoir les entretenir parce qu'il n'avait pas les moyens d'entretenir cet immense orphelinat. Au point d'ailleurs qu'il faisait découper des soutanes à lui pour en faire des vêtements pour ses orphelins. Donc c'est un homme qui avait en fait un cœur d'or, et son amour des Africains et son désir de l'évangélisation de l'Afrique, c'était vraiment il faut leur donner la chance de rencontrer le Christ, il faut les libérer, il faut leur apporter une éducation. Donc c'était son amour des personnes. Alors il y avait à la fois effectivement, comme vous dites, le personnage impressionnant, autoritaire qui était dans le pouvoir, et en même temps l'homme d'une très grande sensibilité.
Le cardinal Lavigerie, fondateur des Pères et des Sœurs Blanches, donc c'est un petit ouvrage « Prier 15 jours » paru aux éditions Nouvelle Cité. On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour entrer entre autres dans 3 chapitres. « Il faut être fou de Jésus-Christ, faites-vous tout à tous », c'était en tout cas ce qu'il lançait au Père Blanc, et « J'ai tout aimé dans notre Afrique ».
Amen. présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Portrait du cardinal Lavigerie, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, à la découverte de cette grande figure de l'Église de France et des missionnaires français. Charles Lavigerie, donc né en 1825 dans le Pays Basque, un huir, c'est bien ça, le Pays Basque, hein, Bernard Huger, et donc décédé le 26 novembre 1892 à Alger, qui a été donc archevêque d'Alger, fondateur des fameux Pères Blancs et Sœurs Blanches, dont on fête, en tout cas pour les Pères Blancs cette année, les 150 ans de leur fondation, et nous sommes avec vous. Bernard Hugeux, vous êtes prêtre, membre de cette société missionnaire et auteur donc de cet ouvrage « Priez 15 jours avec le cardinal Lavigerie » paru aux éditions Nouvelle Cité. Si on prend votre livre, que l'on rentre dans l'un des chapitres, alors j'en ai choisi un, il faut toujours partir pour ces hommes de leur attachement au Christ, il faut être fou de Jésus-Christ, c'est le titre de l'un des chapitres, c'est un titre qui est une citation. Vous le disiez avant la pause musicale, c'était d'abord un grand homme de prière. Qu'est-ce qu'on peut redire ou repréciser sur cette intense union qu'il cherchait en fait avec le Christ ressuscité ?
Oui, on peut dire qu'il était passionné du Christ et il est devenu prêtre pour cela. Il s'est intéressé beaucoup à l'histoire de l'Église et il a voulu continuer cette œuvre d'évangélisation. Et ce qui est frappant, c'est que quand il a été nommé évêque de Nancy, il a choisi dans ses armes épiscopales le pélican et donc le thème de caritas, la charité. Et vous savez que le pélican est le symbole de cet oiseau qui se déchirerait la poitrine pour nourrir ses petits, montre bien donc sa compassion en fait. C'était un homme qui avait un très grand sens des pauvres et des petits. Déjà quand il était évêque de Nancy, il se souciait des personnes, il souhaitait qu'il y ait des hospices pour les vieux, qu'on s'occupe des plus pauvres, etc. Et dans son enseignement, entre autres lors des départs de ce qu'on appelait les caravanes, c'est-à-dire les premiers groupes de missionnaires qui partaient, et au début ils sont partis par le Sahara, et ils se sont fait d'ailleurs assassiner, les deux premières caravanes, ce qu'il leur disait, c'est « Voilà, moi, ce que je veux que vous reteniez avant tout, c'est ce que j'ai pris moi-même pour devise, l'amour de Dieu et celui de tant de pauvres âmes abandonnées. » Ainsi, donc, il faisait allusion aux Noirs d'Afrique centrale et du Sud. « L'amour de Dieu, cet amour m'a soutenu au milieu des difficultés et des travaux qui ont usé ma vie avant l'heure. C'est aussi lui qui vous donnera la force, l'abnégation héroïque, la persévérance. Aimez-les donc comme une mère aime ses fils, en proportion de leur misère et de leur faiblesse. » Et dans le fond, pour lui, c'était ça qui était essentiel. Il fallait que le missionnaire soit d'une certaine façon le visage du Christ. Et avant même de commencer à enseigner ou d'évangéliser, il fallait qu'il se rapproche des gens et qu'il prenne soin d'eux.
Alors si je peux me permettre, il rappelait aussi régulièrement, semble-t-il, au Père Blanc, qu'il fallait quand même toujours commencer par la prière. J'ai noté ce passage que dans votre ouvrage, « Or, dans notre petite société, il faut le dire avec regret et tremblement, on agit et on se remue beaucoup, mais on prie trop peu. Mm-hmm. » Il aiguillonnait constamment les Pères Blancs sur ce sujet.
Oui, et alors ce qui est frappant...
C'est probablement le travers de toutes les sociétés apostoliques aussi, non c'est...
Oui, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. On ne priera jamais assez. Et quand on est des hommes d'action et qu'on n'est pas des contemplatifs, on risque d'oublier la source de notre action. Et c'est ça, je crois, qui est essentiel. Il ne suffit pas de construire des cathédrales, mais il faut aussi s'enraciner dans la foi et savoir pourquoi on le fait. Et il a beaucoup insisté là-dessus. D'ailleurs, c'était frappant de voir comment il disait que dès qu'une communauté s'installait, ne fût-ce que provisoirement dans un endroit, il fallait qu'on construise une petite chapelle, qu'on y mette le Saint-Sacrement et que plusieurs fois par jour, les missionnaires aillent devant le Saint-Sacrement. Donc vraiment, pour lui, cette relation au Christ, cette vie de prière était quelque chose d'absolument central.
J'ai noté aussi qu'il incitait les missionnaires à manifester publiquement leurs prières à l'image des musulmans, ce qui à l'époque ne devait pas être si simple que ça, voire surprenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce détail ?
Alors, c'est effectivement un reproche que faisaient et font encore les musulmans aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas les chrétiens prier. parce qu'on sait bien qu'ils ont une façon de prier, même parfois dans la rue. Enfin, quand c'est l'heure de la prière et qu'on est en Algérie, le bus s'arrête, les gens sortent et on se met à prier. Donc c'est visible. Et du coup, le cardinal a dit, n'hésitez pas, lorsque vous dites vous priez le rosaire, lorsque vous dites l'office, de le faire de façon bien visible, en vous mettant à genoux, même à l'extérieur, si vous êtes dans un lieu où il n'y a même pas encore de chapelle ou quoi, mais qu'on vous voit prier. N'ayez pas peur de montrer que vous êtes des hommes de prière.
Et c'est important, en tout cas.
Et c'est important comme témoignage aussi pour les musulmans, parce que, en fait, ce qui a fait aussi l'attrait et le respect que les musulmans ont eu vis-à-vis des missionnaires d'Afrique, c'était ce fait qu'ils apparaissaient comme des hommes de Dieu, et pas simplement comme des colonisateurs, comme ils étaient assimilés dans le temps à tout ce qui était européen.
Si on va chercher un autre chapitre, on en trouve un autre, donc faites-vous tout à tous. Je vais citer donc le cardinal Lavigerie, c'est vous qui le faites et c'est moi qui le lis. Un missionnaire doit se rapprocher des indigènes par toutes les habitudes extérieures, par le langage d'abord, par le vêtement, par la nourriture, conformément à l'exemple de l'apôtre. Je me suis fait tout à tous afin de les sauver tous, et il cite là donc l'apôtre Paul. Je me suis fait tout à tous, faites-vous tout à tous, c'est un peu la devise des Pères Blancs. Et alors, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Qu'est-ce que ça signifie, surtout?
Alors oui, là, on peut vraiment dire que la spiritualité de la Lavigerie, c'est une spiritualité paulinienne, si vous voulez. L'idée de la Lavigerie, c'est, dans le fond, qu'on ne pouvait vraiment se faire accueillir par les gens que si on les approchait avec respect, et que notre but n'était pas de les rendre semblables à nous, mais plutôt de nous rendre semblables à eux. Et ce n'était pas forcément généralisé dans les sociétés missionnaires. Vous aviez des missionnaires qui partaient avec des interprètes. Or, la règle chez les missionnaires d'Afrique, c'est d'apprendre la langue, d'étudier la culture, et alors, si possible, dès le début, de s'habiller comme les gens. C'est de là que vient le mot « les pères blancs ». C'est parce que nous portons une gandoura blanche, qui était l'habit des musulmans en Afrique du Nord, là où nous avons été fondés, quand nous avons été fondés, ce qui fait que nous nous habillons comme les gens, nous essayons de vivre comme eux, de manger comme eux, de parler leur langue, de circuler à pied comme eux, etc. Il y avait vraiment cette volonté de ce qu'on appelle l'acculturation, qui était une règle que donnait la Lavigerie pour pouvoir vraiment rencontrer les gens et être accueillis et acceptés par eux. Alors ce tout à tous, c'était vraiment se donner aux gens et être semblable à eux. Et d'un autre côté, le tout à donner, c'était leur donner la totalité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'on offrait à tous.
Pour vous, tout à tous aussi, vous vouliez souligner le fait que cet homme avait pour son époque une ouverture, un esprit de dialogue qui était tout à fait frappant. Vous avez contextualisé un petit peu dans la première partie, lorsqu'on on a planté le décor de sa vie, le contexte ecclésial. On n'a pas parlé beaucoup du contexte sociétal. En quoi cet homme était avant-gardiste quant au dialogue avec les autres religions, entre autres?
Je dirais que c'est
et avec l'islam.
C'est ça. Alors, c'est un trait de caractère qui vient peut-être aussi de l'éducation qu'il a eue à la maison, où déjà il était dans un milieu qui était très ouvert à la modernité, à l'esprit critique, etc. Si bien que quand il était professeur à la Sorbonne, il y avait ce dialogue avec la modernité où il montrait une très grande ouverture. Comme évêque de Nancy, il a fait une allocution auprès des lycéens en disant « Mais toutes les grandes valeurs du monde moderne, les libertés, le respect des droits, etc. L'Église le respecte profondément. » Quand il s'est retrouvé juge au tribunal de la Rote à Rome pendant un certain temps, il était choqué par l'italianisation de la curie en disant qu'il faudrait qu'elle soit beaucoup plus internationale. Quand il est arrivé comme responsable des œuvres d'Orient et qu'il a rencontré les églises orientales, il a été choqué d'entendre que si ces membres de ces églises voulaient se rapprocher de l'Église catholique, il fallait les latiniser. Quand il est arrivé en Afrique du Nord, il a dit « tout le monde doit apprendre l'arabe et le kabyle ». En envoyant ses missionnaires vers l'Afrique centrale, il leur a dit « la première chose que vous faites, c'est d'apprendre la langue et puis de traduire le catéchisme et la messe, etc. dans la langue locale ». Enfin, pas la messe à l'époque, on disait encore la messe en latin, mais l'évangile, les évangiles, tous ces textes donc qu'on utilisait pour l'évangélisation. Donc vraiment, pour lui, le tout à tous s'exprimait à travers ça.
Et quant au dialogue avec l'islam aussi, on peut peut-être recontextualiser, on en était au balbutiement.
Il faut reconnaître que lui-même participait aux soupçons par rapport à l'islam comme étant d'abord une religion hérétique pour eux d'une certaine façon par rapport au christianisme. Mais le fait d'avoir rencontré des hommes qui étaient justement comme l'émir Abdelkader ou des musulmans qui étaient vraiment des croyants, il a fait tout de même évoluer dans son regard sur les musulmans. Mais au départ, c'est vrai qu'il avait ces préjugés-là. Puis en vivant là, en rencontrant ces personnes, en ayant surtout le souci. Et là, il a donné des règles très strictes aux missionnaires. Ne baptisez pas un seul musulman sans m'en parler. Il a accepté de le faire dans le cas des orphelins qu'il avait reçus, mais il ne voulait surtout pas que l'on pousse à l'évangélisation, au baptême, plus ou moins de force, avec pression. Enfin, il avait toujours ce très grand respect de la personne.
Alors, autre chapitre, j'ai tout aimé dans notre Afrique, toujours dans votre livre, et puis ça doit être donc un des jours de méditation dans ce livre, donc pour rappel, prier 15 jours avec le cardinal à la Vigerie. Je cite aussi un passage, mon invincible espérance de voir la portion de ce grand continent qui a connu autrefois la religion chrétienne revenir pleinement à la lumière et à la vérité. Vous disiez que c'est son grand rêve apostolique, était donc inspiré des premiers chrétiens d'Afrique du Nord. Il était aussi évidemment, enfin, il avait à la fois de très grands désirs pour l'Afrique et en même temps, il était très très lucide quant à la dureté en fait de cette entreprise apostolique. Je lis dans votre livre, il percevait évidemment la résistance des musulmans à toute forme de conversion et il se rendait compte que voilà que ça allait être de longue haleine. Alors c'était semble-t-il beaucoup plus rapide du côté des populations noires.
Oui, alors là bon, il a rencontré des populations qui étaient moins résistantes, justement, parce que la religion africaine, si vous voulez, est beaucoup plus localisée et plus ouverte à une possibilité de conversion, parce qu'il y avait moins, il n'y avait pas cette rigidité et cette rigueur doctrinale qu'on rencontrait dans l'islam.
Pourquoi? Parce qu'en fait, les religions animistes sont plus ouvertes à une christianisation, c'est...
Oui, parce que, dans le fond, c'est beaucoup plus une religion de la vie, qu'une religion de la doctrine. Et donc, et puis alors, justement, le fait que les missionnaires aient eu cette démarche, le premier travail qu'ils ont fait, c'est de se rapprocher des gens, c'est de les soigner. Et ils disaient, commencez d'abord par les aimer. Puis quand vous aurez touché leur cœur, vous pourrez commencer à les évangéliser. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est beaucoup occupé des personnes, il a soigné, parce que la situation était aussi dramatique sur le plan de la santé, du développement. On a apporté des éléments de développement également. Et puis une dimension qui a quand même été très importante, c'est la lutte anti-esclavagiste.
Ah oui, j'allais y venir. Racontez-nous cette lutte anti-esclavagiste et entre autres cette tournée qu'il a fait à travers l'Europe.
Voilà. Alors ce qu'on ignore parfois, c'est que les grandes pratiques esclavagistes de l'époque se situaient, si vous voulez, à la fois en Afrique de l'Ouest où on envoyait plutôt des esclaves vers les Amériques et puis en Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique de l'Est, où c'était plutôt les pays arabes qui venaient chercher des esclaves dans cette région en passant entre autres par l'île de Zanzibar. Et il y avait de grands réseaux de traite d'esclaves tenus par des Arabes et des Métissés. Et là, quand la Vigerie a reçu les rapports des explorateurs comme Livingstone ou Stanley, des gens en parlaient, mais surtout des pères blancs, quand ils ont raconté les conditions dans lesquelles ces gens étaient enchaînés et transportés sur des centaines de kilomètres avec des dizaines de milliers de personnes qui mouraient en route et qui étaient vraiment humiliés et maltraités, pour la Vigerie, il est apparu qu'on ne pouvait faire un vrai travail d'évangélisation que si on libérait les gens de cet esclavage. Alors il a fait une tournée des grandes capitales d'Europe où il s'est adressé au public dans des églises ou dans d'autres lieux, et il ne s'adressait pas seulement aux catholiques, mais aussi au nom justement des valeurs de la modernité, des droits humains, du respect de toute culture, du respect de la liberté des personnes. Il a touché vraiment les gens, il a créé des comités anti-esclavagistes dans toutes les grandes capitales, et à partir de là, il y a eu tout un mouvement de lutte anti-esclavagiste qui a fini par entraîner la libération de l'Afrique de l'Est et centrale de cet esclavage.
Soutenu par le pape Léon XIII à l'époque.
Alors, entre autres, quand il est venu rencontrer le pape Léon XIII à l'occasion d'un jubilé à Rome, il est venu avec des esclaves rachetés, qui avaient été sauvés donc de cela, et il les a présentés et il a expliqué au pape qu'il y avait vraiment un défi énorme par rapport à cette traite esclavagiste, et Léon XIII l'a mandaté pour justement faire une action large de libération. Et c'est ainsi que la Vigerie a fait son tour des capitales. À un moment, il était très âgé et à la fin de sa tournée, il était vraiment en très mauvais état.
J'ai noté aussi dans votre livre ce passage, quel que soit leur effort d'acculturation, les missionnaires resteront des initiateurs. La vraie évangélisation appartient aux fils et aux filles de la culture concernée. C'était déjà une intuition du cardinal La Vigerie.
Oui, c'était une attrition de la Vigerie et d'ailleurs aussi du père Comboni qui a fondé donc la congrégation des Comboniens. Il y a eu quelques grands fondateurs missionnaires qui se sont rendus compte que l'Européen, en fait, restera toujours un étranger ou en tout cas ne pourra jamais s'assimiler complètement à la culture africaine. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les évangélisateurs, le plus tôt possible, soient des Africains. Ce qui fait d'ailleurs que pendant la période coloniale, par exemple, si on voit le Congo belge, par exemple, qui est un endroit où les pères blancs sont très présents, à une époque où les élites africaines n'avaient pas accès à l'université, etc., il y avait déjà des évêques, des prêtres africains, parce que l'Église avait poussé à la formation, il y a des petits séminaires, des grands séminaires, des écoles d'instituteurs, etc. Et ça, c'était vraiment l'intuition de la Vigerie, c'est, dans le fond, les Africains seront évangélisés par des Africains.
On va faire une deuxième pause, je vous propose, et puis après on va continuer d'essayer d'explorer cette figure en parlant, peut-être en vous demandant de parler un peu plus à la première personne du singulier, de voir la place que cet homme a pu avoir dans votre vie, en tout cas l'écho qu'a trouvé l'écriture de ce livre, parler un tout petit peu aussi de la présence des Pères Blancs aujourd'hui et de leur travail, et enfin faire écho à la rencontre que vous avez eue avec le pape François cette année à l'occasion donc des 150 ans de votre fondation.
Présence à Saint-Gaudens, 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Portrait du cardinal Lavigerie, c'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, grande figure donc de l'Église de France, cardinal archevêque donc d'Alger au XIXe siècle et fondateur surtout donc des Pères Blancs et des Sœurs Blanches, les Pères Blancs qui fêtent cette année les 150 ans de leur fondation. Et nous sommes, pour ceux qui nous rejoindraient, avec Bernard Hugeux, prêtre missionnaire d'Afrique et auteur donc d'un ouvrage « Prier 15 jours avec le cardinal Lavigerie » paru aux éditions Nouvelle Cité. Je m'étais dit donc qu'on finirait sur une note un petit peu plus personnelle, pour donner aussi envie aux auditeurs d'acheter ce livre qui n'est pas d'abord une biographie, mais qui est qui est une manière d'être accompagné et nourri par cet homme et par son cœur, par sa relation à Dieu. Quelle place tient le cardinal Lavigerie dans votre livre? Le connaissiez-vous bien avant de vous lancer dans l'écriture de ce livre? Je crois que vous disiez que c'est votre supérieur général qui vous a demandé de vous y coller.
Voilà, donc à l'occasion du jubilé de 150 ans de fondation des missionnaires d'Afrique, hommes et femmes, donc père blanc, sœur blanche, comme on dit, mon supérieur général m'a demandé d'écrire un livre sur la Lavigerie. Et c'était un petit peu un défi. Bon, j'ai accepté parce que comme j'ai l'habitude d'écrire et que c'était notre jubilé, je me suis dit pourquoi pas. Mais alors je me suis tourné vers les spécialistes de notre congrégation parce que je me considère pas comme un spécialiste de la Lavigerie. Mais du coup, j'ai pris très au sérieux cette demande et j'ai lu une quinzaine de livres sur lui. J'ai pris 2 mois pratiquement, dont 10 jours d'ermitage pour écrire ce livre. Et dans le fond, j'ai découvert que Lavigerie était une personnalité plus complexe que l'image qu'on en donne d'habitude, comme un homme assez dominateur, autoritaire, très ecclésiastique comme on l'était à l'époque, etc.
Parce qu'on en parle beaucoup dans votre congrégation, c'est une figure qui est très présente.
C'est vraiment une figure qui est importante. Pendant le noviciat, on étudie sa vie, etc. Mais si vous voulez, la difficulté de la personnalité de Lavigerie, c'est que c'était plutôt un historien. En tout cas, c'est un homme qui n'a pas écrit spirituel. On n'a pas de traité de spiritualité des Pères Blancs. Il n'a pas d'œuvre spirituelle qu'il aurait écrite et développée. Donc, si bien que si on veut découvrir sa spiritualité, on doit aller voir quelles sont ses directives adressées aux missionnaires, des homélies qu'il a données à certains grands moments de sa vie, des témoignages de sa vie personnelle, etc. Et donc, c'était un peu un défi de faire ce travail. Et j'ai découvert, entre autres, à l'aide justement de ses confrères qui étaient plus spécialisés, c'est qu'il avait 4 grandes passions. Qui était la passion de l'homme, la passion de Dieu, la passion de l'Afrique et la passion de l'Église. Et là, je les ai retrouvés dans ses écrits et j'ai essayé donc, comme ce livre, c'est 15 jours, alors c'est 15 thèmes différents que j'ai essayé de décliner. Et là aussi, ce que j'ai découvert chez lui, c'est d'abord que s'il a eu des postes très importants dans l'Église et une très grande influence, il ne cherchait pas le pouvoir pour le pouvoir, mais c'était toujours à cause de sa passion pour l'Église et sa passion pour l'Afrique. Et sa passion pour l'homme, et puis aussi que c'était un homme qui avait, sur le plan humain, j'y ai fait allusion, une grande tendresse, une grande attention aux personnes.
Mais alors vous, à titre personnel, Bernard Hugeux, est-ce que ça vous a nourri, et si oui, pourquoi?
Dans le fond, lorsque j'ai quitté l'Institut catholique il y a 10 ans pour retourner en Afrique...
Voilà, donc pour ceux qui ne le savaient pas, vous étiez enseignant à l'Institut catholique.
C'est ça, donc j'étais 17 ans professeur à l'Institut catholique. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait de Toulouse. J'ai fait beaucoup d'émissions avec Radio Présence. Et en fait, quand j'y suis retourné, j'ai senti un appel très important, et c'est mon provincial qui m'y avait encouragé, de m'occuper des victimes, des violences sexuelles, etc. Bon, étant donné les violences qui se développent en Afrique de l'Est. Et je veux dire dans l'est du Congo. Et ça rejoignait tout à fait cette option du cardinal Lavigerie, la libération de l'esclavage, le fait que à peine arrivé à Alger, il a créé des orphelinats, son souci des plus petits et des plus fragiles. Et là vraiment, je peux puiser dans son regard sur les petits quand il dit il faut aimer les gens comme le Christ les a aimés, il faut les aimer d'un amour maternel, il faut d'abord les soigner avant de les évangéliser. Ça rejoint totalement l'engagement que j'ai actuellement. Et je peux dire que quand le pape parle d'aller vers les périphéries, quand il insiste sur la compassion, et d'ailleurs j'ai aussi publié récemment un livre sur la compassion. Moi, je me retrouve
la compassion, j'y crois.
C'est ça. Là, et donc chez Bayard. Et là, vraiment, moi, je peux dire que je peux puiser dans la vie spirituelle, parce que pour moi également, c'est très important d'avoir chaque jour un long temps de méditation, de prière. Moi, je pense qu'un missionnaire qui ne prie pas, quelque part, il est usurpateur, parce que quand les gens se tournent vers nous, c'est pour rencontrer un homme de Dieu. C'est pas simplement un bon communicateur, quelqu'un
voire
de
même
relationnel,
c'est, voire
etc.
même, c'est d'abord pour que vous priez pour eux aussi, peut-être.
Et ça aussi, parce que on est nourri de la rencontre avec eux. Et donc, la vie de prière de la Vigerie, son engagement contre l'esclavage, son souci des pauvres, tout ça nourrit mon propre engagement aujourd'hui, et d'ailleurs de l'ensemble des missionnaires d'Afrique, parce que lors de notre dernier chapitre, il a été très clairement précisé qu'on doit aller vers les périphéries, qu'on doit aller vers les plus fragiles. Il y a cette option qui est là et qui est réelle, quoi.
Pour finir cette émission, parlons de la rencontre que vous avez eue, donc rencontre des Pères Blancs à l'occasion donc des 150 ans de votre fondation. Pour rappel, et pour ceux qui par hasard prendraient cette émission en cours de route, il y a une rencontre donc avec le pape François. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que le pape François vous a dit et quelle a été son exhortation, ses remerciements peut-être d'abord et son exhortation à votre égard?
En fait, bon, moi, j'étais pas à la rencontre parce que je ne fais pas partie des grandes autorités d'Europe, mais ce que notre supérieur général nous a rappelé, puis ce qu'il rappelle aussi dans la préface de ce livre, c'est que le pape a insisté beaucoup sur l'engagement des missionnaires d'Afrique par rapport à l'islam, le dialogue avec l'islam, et ensuite cet engagement à l'évangélisation et à se tourner vers les plus pauvres. Il disait, il invitait les Pères Blancs à être dans le sillage du cardinal Lavigerie, des semeurs d'espérance, en luttant contre toutes les formes actuelles d'esclavage, cherchant toujours à nous faire proches des petits et des pauvres. Et ça rejoint tout à fait notre chapitre, et nous nous sommes sentis très encouragés par le pape lorsqu'il nous a demandé d'avoir cette attitude-là. Il nous a demandé aussi d'être en fait des témoins partout où on nous appelle de cette proximité du Christ avec les plus pauvres.
Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, les Pères Blancs peuvent devenir en fait des acteurs de la vie ecclésiale local, avant d'être des missionnaires auprès des périphéries en Afrique aujourd'hui, c'est un peu le sens de l'exhortation du pape François derrière.
Sans doute, d'abord parce que ça rejoint sa propre priorité, et donc il compte sur les instituts missionnaires. Quand on prend par exemple la joie de l'évangile, pour nous, la joie de l'évangile, c'est vraiment le livre le texte de référence. On en a beaucoup parlé lors de notre dernier chapitre. Et puis parce qu'effectivement, si vous voulez, dans certains pays d'Afrique, c'est différent en Afrique de l'Ouest où il y a beaucoup plus de musulmans et moins de conversions. Mais si je prends l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, nous pouvons être curés de paroisses où on a des 10 000 personnes, où on a 10 messes par week-end avec des églises avec 500 personnes, etc. Et donc la dimension d'évangélisation, d'aller vers les périphéries, on risque d'être, dans le fond, dévoré par ce qu'on appellerait la sacramentalisation, par les sacrements, préparation aux sacrements. Et plus cet aspect du dynamisme missionnaire et du choix des plus pauvres et des plus petits. Et c'est ce que le pape nous a rappelé.
Pour ce qui est de l'exhortation du pape François, on finira là-dessus, son exhortation donc à vous tenir sur la brèche du dialogue avec l'islam. Est-ce que vous pourriez nous repréciser aussi ce que le pape entend par là, et quelle est la manière dont les Pères Blancs entendent cela? On recevait il n'y a pas si longtemps de cela Monseigneur Fitzgerald, qui a été l'ancien président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui est un Père Blanc lui-même. Comment vous le présenteriez? Voilà, quelle idée les Pères Blancs se font du dialogue avec l'islam?
Bon, la première chose, c'est qu'on a une certaine expertise, puisque à Rome, nous dirigeons l'Institut pontificale d'études arabes et islamiques, qu'on appelle le PISAI, depuis très longtemps, et donc nous occupons de l'organisme officiel du Vatican de formation au dialogue avec l'islam. Donc là déjà, c'est notre engagement sur le plan de l'expertise. Quant à la vie quotidienne, c'est vraiment, alors là on rejoint le tout à tous, c'est-à-dire c'est l'immersion. Normalement, un Père Blanc qui travaille en Afrique du Nord, il a un métier. Et il travaille, il est enseignant, ou bien il s'occupe d'une bibliothèque.
Toujours. Il a toujours un travail. Un Père Blanc a toujours un travail.
Oui, oui. Là, il travaille parce que, si vous voulez, s'il veut avoir un visa, de toute façon, il faut qu'il ait une justification. Donc, il suffit pas simplement de dire, moi, je viens m'occuper des quelques chrétiens qui sont là. Il faut aussi qu'il ait quelque chose à offrir. Donc, pratiquement.
Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas quand on est en Afrique dite noire. C'est-à-dire que
il suffit, surtout dans les pays qui sont très christianisés, vous êtes accueilli en tant que prêtre, simplement. C'est votre évêque c'est l'évêque qui demande qu'on vous donne le visa d'établissement en tant que missionnaire.
D'accord.
Tandis que dans ces pays d'Afrique du Nord, en général, on a un métier, on a une expertise. Et alors, il y a cette vie, en fait, du voisinage, une vie d'amitié, une vie de proximité. Et donc l'objectif n'est pas d'essayer de convertir le maximum de gens, mais d'être témoin de l'amour du Christ et d'être ainsi avec les musulmans et de leur permettre aussi eux-mêmes de vivre leur engagement à fond, mais dans cet enrichissement mutuel. Et c'est dans le fond cette démarche-là, parce que nous nous sentons responsables de cet envoi du Christ, aller de toutes les nations, faites-moi connaître. Et donc nous désirons être son visage pour cette population aussi, mais dans ce grand respect.
En espérant qu'il rencontre le Christ tout de même un jour ou l'autre.
C'est-à-dire que l'idée, c'est que d'abord, il découvre la personnalité du Christ, peut-être dans tout ce qu'il apporte, parce que la place du Christ est simplement une place d'un prophète exceptionnel dans l'islam. Donc, pour nous, il est beaucoup plus que ça. Mais c'est sûr qu'on désire qu'il puisse faire une belle expérience de la rencontre avec le Christ dans notre relation avec eux. Et puis, chacun fait son chemin, quoi.
Eh ben merci beaucoup Bernard Hugeux d'être venu ce matin au micro de Vivante Église. Petit secret de fabrication, on va enregistrer à cette suite une autre émission qui sera diffusée à la rentrée sur la République démocratique du Congo, la région du Kivu et sur la présence des Pères Blancs là-bas et entre autres vos apostolats. Votre travail. Donc rendez-vous pour les auditeurs à la rentrée pour un deuxième épisode avec vous. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre pour cette émission sur le cardinal Lavigerie, Prier 15 jours avec le cardinal Lavigerie, fondateur des Pères Blancs et des Sœurs Blanches, paru aux éditions Nouvelle Cité. Merci.
Avec une invitation à la librairie Siloé demain.
Ah pardon, oui. Vous faites
bien de me rattraper. De 14h à 18h, Siloé Joanneau, rue de la Trinité.
Toulouse.
À Toulouse.
Pour une séance de rencontre dédicace. 14h-18h, librairie Siloé Joanneau à Toulouse. Merci du rappel.
Pour une dédicace, oui.
Cette émission a été réalisée par Océane Soulier. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.